Bien, nous allons commencer. Donc, bonjour, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues. Je voulais d'abord adresser tous nos remerciements à la librairie Mola qui nous accueille aujourd'hui et qui nous permet de donner un écho au travail que nous avons réalisé avec les étudiants de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. Je suis très content de pouvoir vous présenter nos collègues qui ont participé à cette aventure et les étudiants qui ont composé, enfin, dont une partie d'entre eux a composé donc la rédaction étudiante de ce journal. Donc, je voulais présenter d'abord Maria Santos-Sens, qui est donc enseignante-chercheuse à l'IJBA et qui a assuré avec Jean-François Brieux et moi-même la coordination du magazine. Cyril Fernando, qui est notre directeur artistique, c'est lui qui a imaginé et a fait évoluer sur le plan graphique et du point de vue donc, oui, de tout ce qui relève de l'illustration, de l'iconographie, qui a fait donc, qui a conçu et fait évoluer le magazine Viso, dont vous découvrez aujourd'hui la 4e édition. Je rappelle donc ce magazine a d'abord donné lieu à une série d'enquêtes sur l'Aquitaine. Et à partir du 2e numéro, nous avons mis le cap sur des pays étrangers, l'Islande, le Portugal et donc cette année l'Italie. Je voulais vous présenter aussi deux des étudiants qui ont pris part à cette aventure, donc Colin Pradier et Thibaut Serin, qui ont respectivement donc pris en charge des sujets difficiles. Colin, qui a produit un remarquable récit où il a reconstitué la dernière journée de Pasolini. Et donc Thibaut, qui lui s'est attaqué au cœur du dossier politique permettant de comprendre l'actualité la plus récente, avec un dossier très important sur les réformes mises en œuvre par Matteo Renzi, entre autres. Hein. Donc ce travail, je suis vraiment très fier et très heureux de pouvoir vous le présenter. Je rappellerai simplement peut-être deux choses. La première, concernant donc la ligne éditoriale, ce qui est un petit peu le fil rouge de notre projet rédactionnel, c'est d'essayer de prendre le pouls d'une société. Dans chaque pays où nous nous rendons, on ne prétend pas, bien sûr, refléter de façon exhaustive, complète l'actualité et la réalité du pays, mais on essaie de construire et de porter un regard singulier sur la société du pays dans lequel on se rend. Et dans le cas de la société italienne, jamais nous nous sommes trouvés confrontés à un défi aussi dur à relever, aussi difficile sur le plan pédagogique. Pourquoi ? Eh bien parce que l'Italie est un très grand pays. C'est un pays qui est très riche de par son histoire, de par sa culture, et c'est également un pays qui est complexe à comprendre et à saisir en ce qui concerne sa vie politique. Et de ce point de vue-là, permettre aux étudiants non seulement de collecter des faits significatifs, mais de les interpréter, ça exigeait un travail en amont tout à fait considérable, puisque pour fabriquer ce magazine qui fait en nombre de pages
108
pages, nous ne sommes restés sur place que 6 jours. Hein, avec une équipe donc de 15 journalistes, de 15 étudiants. Et au préalable, il y a eu des semaines et même des mois de préparation en amont, dans un premier temps donc pour essayer de s'acculturer à l'Italie, ne serait-ce que pour être en capacité donc de repérer et d'interpréter ce qui se présentait sous nos yeux. Alors, dans ce travail, nous avons pu compter sur l'aide précieuse d'un certain nombre de nos collègues, dont certains sont ici présents. Nous avons pu constituer et mettre sur pied un ciné-club du cinéma italien qui a permis, au cours de 8 projections successives, aux étudiants de découvrir l'histoire contemporaine de l'Italie. Alors, comme nous nous rendions à Rome, on a commencé par projeter Rome, ville ouverte de Rossellini. Mais à travers ce film, ce seul film, puisqu'après nous avons découvert enfin, les plus grands chefs-d'œuvre du cinéma italien jusqu'à la projection de Gomorra, hein, qui marquait bien quand même aussi une des réalités auxquelles nous avons été confrontés. Mais par exemple, dans le seul film Rome, ville ouverte, nous avons pu saisir une des spécificités de la vie politique italienne au lendemain de la guerre, à savoir cette cohabitation qui avait fonctionné au sein de la résistance entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste. Et cette référence historique, si elle a en quelque sorte disparu aujourd'hui avec la recomposition du paysage politique, elle a permis en tout cas aux étudiants qui partaient en reportage et qui allaient enquêter sur ce qu'on a appelé la tribu des notaves, NOTAV, c'est-à-dire les opposants à la construction de la ligne TGV Lyon-Turin. Dans notre esprit, au départ, c'était en quelque sorte la version italienne des zadistes, hein, qui s'opposaient à des aménagements, à des grands projets, etc. Mais il y a une spécificité italienne que nous n'avions pas perçue et qu'on a pu mettre en valeur dans Viso, c'est le fait que ce mouvement, qui dure maintenant depuis un quart de siècle, hein, c'est-à-dire que ça a commencé en 1991, fait en permanence référence à une histoire des luttes politiques et sociales italiennes, et notamment aux partisans italiens qui étaient très importants dans le nord de l'Italie. Et donc, ne serait-ce que pour pouvoir situer dans une perspective historique les faits que nous constations aujourd'hui, il fallait quand même avoir aussi cette mémoire, cette histoire de l'Italie en tête. On a bien évidemment également été frappé par le dynamisme de la société italienne, et ce qui nous a frappé, et ça se reflète très bien donc dans le titre du magazine Italie Fast et Furieuse, c'est que nous avons essayé de mettre en évidence les mouvements à la fois impétueux et contradictoires qui traversent la société italienne et qui la travaillent. Et ça, bien évidemment, pour des étudiants en journalisme, c'était quelque chose d'extrêmement, je pense, intéressant à observer, parce que dans leur vie professionnelle, ils seront en permanence confrontés à des mouvements impétueux et contradictoires dont il faut saisir le sens. Et là, donc, notre projet a été de balayer la société italienne, bien évidemment, donc pas de façon exhaustive, en s'arrêtant dans un certain nombre d'endroits où il nous semblait qu'il y avait une actualité qui était incontournable. C'est la raison pour laquelle on a fait le choix de concentrer l'essentiel des forces de la rédaction sur Rome, mais d'envoyer aussi une équipe de reporters donc dans le nord de l'Italie, dans le Val de Suse. Une autre équipe est partie à Bari et à Lampedusa, et l'actualité a montré que c'était vraiment quand même des endroits où il fallait être et dont il y avait des choses à dire si on voulait rendre compte de l'Italie d'aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je pense que on a bien rempli notre mission. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du sommaire, qui est vraiment très riche, très varié, très diversifié. On aborde donc à la fois les grandes questions économiques, sociales, politiques. Vous verrez en particulier qu'on a fait tout un dossier à l'occasion de l'exposition universelle de Milan sur le savoir-faire italien. Et ce savoir-faire italien, il est quand même un atout. Il représente quand même un atout considérable. En même temps, nous avons été frappés aussi, je reviens sur la présence de la mafia et des pratiques de corruption, je dirais, à tous les étages de la société italienne. Quand nous étions sur place, le ministre des Transports a démissionné parce qu'il était impliqué dans une affaire de corruption. À Milan, on s'est aperçu que les organisateurs avaient voté, y compris un budget de camouflage pour les travaux inachevés prévu pour l'exposition. Donc ces travaux sont inachevés parce qu'une partie de l'argent public qui a été donné pour payer ces travaux a été détournée, et qu'à partir du moment où les artisans ne sont pas payés, ben, ils ne construisent pas les bâtiments de l'expo jusqu'au bout. Et donc il y a y compris du matériel de camouflage qui a été prévu pour masquer ces choses-là. En même temps, ce qui nous a beaucoup frappé aussi, c'est le caractère vraiment impétueux, intrépide, innovant de cette société, avec un Premier ministre qui a promis beaucoup, mais qui a fait aussi et mis en œuvre un certain nombre de réformes qui sont susceptibles de changer durablement le paysage de la vie politique italienne. On a été aussi sensible à l'effet produit par le pape François, un pape dont on voit la photo aussi bien dans les maisons de pêcheurs de Lampedusa que chez les notaves qui s'opposent à la construction de la ligne TGV, puisque une des photos les plus insolites que vous trouverez sans doute dans le magazine, c'était une photo donc de ces opposants à la ligne TGV qui organisent une prière en pleine montagne. Ils demandent l'aide de Dieu pour repousser l'arrivée du TGV. Alors, c'est quelque chose qui nous semble tout à fait intéressant à constater et à mettre en avant. Et puis, donc, par ailleurs, bien évidemment, il y a toute la richesse de la vie culturelle italienne qu'on a essayé de refléter. Et là, les étudiants ont fait vraiment des prouesses en matière d'originalité pour essayer de trouver des façons originales de parler de sujets dont beaucoup, beaucoup de journaux, et notamment de journalistes français, ont déjà parlé. C'est-à-dire que pour nous, il y avait quand même un vrai défi sur Rome, compte tenu de la concurrence dans les suppléments qui avaient déjà été produits par tous les grands journaux sur cette ville. Et donc là, il fallait quand même se creuser la tête pour trouver une façon originale, un peu singulière, d'aborder cette ville absolument magnifique. Alors, je vais peut-être laisser la parole à Cyril, s'il veut, sur la forme, sur les problèmes.
Moi, j'ai pas grand-chose à dire, sauf que je trouve que les étudiants ont eu un travail assez remarquable à faire, parce que être dans un pays 6 jours et faire une enquête, faire des enquêtes d'un tel niveau, c'est assez difficile. Donc bravo à eux. Et sinon, moi je suis assez content du résultat du magazine. Hein. Je peux parler de la question graphique. Petit à petit, chaque année, on arrive à quelque chose de plus en plus professionnel. Donc à chaque année, on met la barre encore un peu plus haute pour les étudiants, mais pour nous-mêmes aussi en tant qu'enseignants. Et je trouve que le résultat est assez accompli. Et voilà. Et j'espère que vous prendrez plaisir à le lire. Voilà.
Alors. Thibault. Oui. Voilà. Bonjour à tous. C'est vrai qu'on a passé que 6 jours là-bas, mais on a l'impression d'y avoir passé beaucoup plus en fait, puisqu'il y a eu un gros travail de préparation en amont, et puis après de post-production. Je me souviens quand j'étais à Milan sur une de mes enquêtes, un interlocuteur m'a expliqué qu'en France, on réfléchissait beaucoup avec le cerveau, et en Italie, ils réfléchissaient, enfin, c'était les tripes qui parlaient, surtout. Et c'est marrant parce qu'on retrouve aussi on retrouve ça un petit peu dans le titre, Fast et Furieuse. Ça n'a pas forcément été, ça n'a pas toujours été facile de désapprendre pour, pas réfléchir avec nos yeux de français et appliquer nos schémas français à l'Italie. Donc on a essayé de le faire au maximum pour saisir les particularités de ce pays. En parlant de Viso, c'est vrai que c'est une expérience assez folle. On est dans un tourbillon, on est vraiment immergé, on est vraiment dedans et j'espère que...
Le résultat aussi est très très bien.
Voilà, et j'espère que pour les années à venir, ça pourra aussi continuer pour les futurs étudiants qui pourront aussi avoir la chance qu'on a eue sur ce projet-là. Donc après, j'espère que ça continuera en tout cas. Voilà.
On espère avoir les moyens financiers qui nous permettront d'organiser de prochaines aventures, de prochaines expéditions.
Acheter Viso.
Vendre des palettes de Viso.
Alors, Colin.
J'ai pas grand-chose à rajouter. Pour moi, ça a été une belle expérience parce que c'était la possibilité de travailler dans les conditions d'un magazine avec un travail sur le long terme, avec pas mal d'enquêtes. En plus, on a eu quelques difficultés qu'on n'a pas évoquées, mais notamment le fait qu'il n'y avait qu'une seule étudiante qui parlait italien dans le lot. Donc ça, ça a été un petit peu
compliqué. Sur 15.
Ouais. Donc dû développer un don d'ubiquité qui était assez sympathique. Et c'est une très belle expérience. J'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai appris beaucoup de choses et... Voilà, j'espère que vous prendrez plaisir à le lire.
Voilà, il y a des endroits où on n'a pas pu aller partout. On était limité par notre nombre, nos moyens financiers et un peu nos choix rédactionnels, dans la mesure où il fallait qu'on puisse rendre compte des différents aspects de la vie politique, économique, sociale, culturelle, sportive de l'Italie. Et donc on a fait des choix. Alors de la même manière, là je voulais féliciter aussi les étudiants, la grande difficulté quand on traite de l'Italie, c'est de ne pas tomber dans les clichés. Voilà. Alors les clichés, il y a eu une réflexion et un travail spécifique des étudiants avant de partir. Par exemple, comment traiter à Rome du football sans parler de la Lazio et de la Roma? Eh bien les étudiants ont réussi à trouver le troisième club de football qui n'a aucun moyen, qui n'a même pas de stade à sa disposition, mais qui a quand même un petit cercle de supporters fidèles qui l'encourage, donc qui en quelque sorte vivote à l'ombre des géants du sport business et qui traduisent aussi la passion des Italiens pour le football. Voilà. De la même manière que pour parler de l'industrie automobile, on aurait pu faire une plongée dans les usines de fabrication automobile. Là, on le faisait déjà avec le textile, on le faisait déjà avec l'industrie de la mode. Donc, on a choisi de s'intéresser aux collectionneurs passionnés par les Ferrari. Et donc, là, notre accroche, c'était de dire sur quoi se fonde la passion pour les voitures, et en particulier pour les belles voitures comme les Ferrari, sur quoi se fonde cette passion. Alors, on est tombé naturellement sur quelqu'un qui est un peu caricatural, mais qui illustre bien cette passion pour Ferrari, qui passe avant sa vie de famille, qui passe avant sa vie professionnelle, qui l'absorbe complètement, mais qu'il revendique en même temps, en permanence. Donc, ne pas tomber dans les clichés, c'était donc dans le cas du sport. Alors, en même temps, dans le cas du sport, par exemple, toujours à côté du foot, on ne s'est pas limité au foot. Il y a une grande tradition sportive en Italie, c'est l'escrime, qui est un des pays qui a vraiment une tradition très ancienne. Donc là, les étudiants ont trouvé une façon de parler de l'escrime qui était originale. Ils se sont intéressés aux escrimeurs handicapés. Et là, l'Italie a aussi remporte des titres, a aussi des champions, et donc c'était une façon de contourner un cliché en essayant de montrer un autre versant, un autre aspect méconnu de quelque chose qui pouvait être très connu, quoi. Voilà. Et puis, à côté de ça, je pense qu'il y a beaucoup dans le domaine culturel aussi de choses, enfin culture et société, il y a eu des approches originales. Alors, pour traiter de l'immigration, on avait déjà deux entrées. Il y avait la première entrée, c'était Lampedusa, puisque là, on a envoyé une équipe sur place. Et alors, au départ, parce que c'est aussi quelque chose qu'on apprend aux étudiants et qui fonctionne très bien, il faut être réactif. C'est-à-dire qu'entre l'idée qu'on a au départ et ce qu'on constate sur le terrain, il peut y avoir quelque chose qui est tout à fait différent. Donc, avant de partir à Lampedusa, le projet, c'était de montrer comment cohabitent les touristes italiens qui viennent pour bronzer sur les plages et les migrants qui débarquent dans les conditions que vous savez. Et la semaine donc, où les deux étudiants partent sur place, il n'y avait ni migrants ni touristes. Donc là, ils téléphonent et ils me demandent « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors je leur dis « Ben, c'est pas compliqué, vous allez faire un porte-à-porte de maison de pêcheur en maison de pêcheur et vous allez leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce qui leur arrive et de tout ce qui se passe chez eux. » Et ils ont fait un papier remarquable, puisque uniquement, finalement, en interrogeant les gens qu'ils ont trouvés sur place, mais comme l'île est relativement petite, si je puis dire, c'est quand même abordable en 2-3 jours. Et ça a donné finalement un papier très intéressant qui montrait un autre visage de l'Italie, puisqu'on avait, avec le portrait fait par Thibault, des représentants de la Ligue du Nord, montré aussi, et puis les sujets abordés dans les manifestations romaines, hein, puisqu'on s'est trouvé à Rome au moment, une journée où il y avait 3 manifestations différentes, organisées par, en gros, des partis très différents et très opposés. Et alors donc, on a naturellement rendu compte de cette partie de l'Italie qui rejette à la mer les immigrés, qui rejettent en tout cas la présence des étrangers en nombre trop important. Et à Lampedusa, on a trouvé une Italie solidaire qui ouvre ses bras et ouvre son cœur et qui n'a pas grand-chose à partager, mais qui ouvre les portes de sa maison pour accueillir les gens qui survivent au naufrage, avec en même temps quand même cette tradition des pêcheurs qui, sur le plan professionnel, ont quand même l'habitude de ne pas laisser les gens se noyer et qui leur viennent en aide. Alors avec cette difficulté, que pour freiner quand même ce mouvement de solidarité, je dirais spontanée, des pêcheurs vis-à-vis des gens qui se noient, a eu lieu il y a quelques semaines un procès retentissant en Italie pour punir d'une peine d'amende, avec y compris la saisie du bateau, les pêcheurs qui récupéraient des immigrés en train de se noyer au motif qu'ils favoriseraient l'immigration clandestine de gens sans papier. Hein, donc voilà, il fallait raconter tout cela. Et alors heureusement, à côté de ces événements avec une tonalité tragique, les étudiants ont aussi trouvé un reportage beaucoup plus souriant qui montre donc des immigrés maliens, et puis il y a trois nationalités africaines, donc un groupe de jeunes immigrés africains qui se sont installés dans les environs de Rome, qui ont créé leur entreprise où ils fabriquent des yaourts bio. Hein, en quelque sorte, ils ont utilisé les procédés de fabrication des yaourts qu'ils avaient en Afrique noire, dans leur pays d'origine. Et ça a fait en quelque sorte un tabac en Italie, et leur entreprise prospère. Et donc, du coup, on a pu titrer « Sans papier ni conservateur », faisant allusion aux fabricants et à leur production. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.